peur.
Here it comes again, taste of jagged glass and rusty can. There are just black holes where the stars would be watching. Just black holes where the stars should have been. Pools of dirt caress the urine-colored sun. Swarms of angels come to kill your sons. And there's nothing but black holes where the stars should have been.
Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Campus Lille sur le 106,6 de la bande FM en DAB+ et sur campuslille.com. C'est l'émission Palude numéro 1092 consacrée de 11h à midi à notre 863e arrache-cœur, présentation de quelques nouveautés littéraires. Au programme et sous réserve d'imprévus négatifs, je présenterai aujourd'hui de Pierre Barrault « Flouter les pigeons » aux éditions Kidam dans leur collection « Made in Europe ». J'enchaînerai ensuite avec le texte de Frédéric Roussel, Amormina B, disponible aux éditions Elicellas dans leur collection Mycélium Miraisin. Puis je poursuivrai avec un texte de Thomas Pourchaire paru aux éditions Abstraction, tentative de lutte contre l'infini quadrillage du monde dans leur collection Hors cadre. Et enfin, je terminerai, si le temps le permet, avec cette anthologie dirigée par Françoise Siri pour les éditions Le Mercure de France, dans leur collection Le Petit Mercure, intitulée Le goût des fantômes. Mais avant toute chose, et après le générique d'introduction, nous écoutons Future Islands, interprété Doves.
Thank you.
Bolusion marche à côté de moi, il porte des chaussures monumentales. Je lui dis « Au fond, mon vieux, je crois qu'il n'y a plus rien à raconter. Nous sommes arrivés après l'histoire, après la structure, après le sens et la progression des choses, après leur développement. Quelque chose à voir avec la durée. On nous a confisqué la durée. Tu vois où je veux en venir avec cette confiscation de la durée. Nous sommes après le temps, après les époques. La fin du film a déjà eu lieu, c'est terminé. On erre dans les débris narratifs, en accéléré parce qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps pour la durée. On n'a plus aucune durée. » Quand ils en ont assez de flouter les pigeons, ils les effacent tous et les remplacent par des influenceuses. Instantanément, des milliers promenant leurs cheveux roses un peu partout dans la ville, leurs visages qui ne veulent rien dire, leurs bras pas toujours à la bonne place. Je te vois descendre et je traverse la rue pour te rejoindre. Nous marchons côte à côte, nous remontons la rue. Tu marches devant moi, tu marches tellement plus vite que moi. Tes jambes sont au moins aussi longues que les miennes. Je suis obligé de courir ou presque. Je ne suis pas sûr que tu t'en aperçoives. J'ai une main qui ressemble à Jack Nicholson. Tu me le fais remarquer. Je me demande si j'ai toujours été comme ça. Tu prétends que non. Je me vois bébé avec une main Jack Nicholson. Nous atteignons la terrasse d'un café et nous nous y installons. Tu portes un bonnet péruvien. Tu prétends que c'est involontaire. Tu veux bien parler d'autre chose. Tu dis « Tout est momentané ». Tu veux bien parler de ma momentanée main Jack Nicholson. Après avoir tout à fait renoncé à devenir savant, j'ai travaillé pendant quelques mois pour un institut de sondage assez connu. Ce n'était pas très intéressant. Je téléphonais à des gens, je les dérangeais puisque c'était ce qu'on me demandait. « Allô, ça va ?»« Oui. »« Ça va bien ?»« Clic. » Ensuite, je remplissais les questionnaires moi-même en mettant un peu n'importe quoi. On a fini par me renvoyer. Mais j'ai eu le temps de fausser plusieurs études, notamment celles concernant les élections présidentielles de 2007. Je voulais te le dire. Je veux te dire aussi dans quel état je suis. Je n'arrête pas de renifler. Me moucher serait mieux, mais je ne sais pas s'il reste des mouchoirs. S'il y en a, ils ne sont pas à portée de main. Je suis affalé sur le canapé. Je pourrais me lever, chercher un peu. J'ai la flemme. Je vais continuer à renifler. Souvent, pour me moucher, j'utilise du papier toilette. C'est quand je ne trouve plus aucun mouchoir ou quand je suis aux toilettes. Là, si je dois me moucher, j'utilise du papier toilette, qu'il y ait des mouchoirs ou pas. S'il y avait des mouchoirs dans les toilettes, peut-être utiliserais-je des mouchoirs pour me moucher plutôt que du papier toilette. Pas sûr. Je pense que je me moucherais encore avec du papier toilette. Peut-être pas tout le temps, mais souvent. J'ai la peau des narines irritées à cause du papier toilette. Je mets de la crème. C'est insuffisant. Une fois que je me suis enrhumé, Mon nez coule pendant 4 ou 5 mois. Ce n'est pas une vie. Voilà que ça me démange dans le mollet droit. J'ai l'intention de me gratter. Ou peut-être devrais-je dire, j'ai l'intention de le gratter. Ou pas. En réalité, je ne suis pas persuadé que mon mollet droit m'appartienne. Tout comme je ne suis pas persuadé que l'intention vienne de moi. C'est peut-être mon mollet droit qui veut que je le gratte. J'ai gardé mes dents de lait dans un ancien tube de Valium 2 mg 40 comprimés que je tiens de mon grand-père. Quand je serai vieux, quand j'aurai perdu mes dents dites définitives, je serai bien content d'avoir mes dents de lait sous la main. On me verra me présenter chez le dentiste avec mon tube de Valium. J'expliquerai, je viens pour une réimplantation et on me réimplantera mes dents de lait. Je regrette de n'avoir su garder que mes dents de lait. J'aurais voulu garder mes cheveux, mes poils, mes rognures d'ongles, toutes mes peaux mortes, toutes les parties de moi que j'ai perdues, taillées, rongées. Je n'ai pas écrit ce roman policier dont j'ai eu l'idée. Un tueur en série assassine des hommes en surpoids et prélève leur peluche ombilicale dans le but de se tricoter un pull avec. Il devra tuer environ 130 000 hommes en surpoids et prélever autant de peluches ombilicales pour pouvoir terminer son pull. J'ai voyagé. J'ai vécu dans plusieurs villes. Paris, Trieste, Arusha, Kotor, Chicoutimi, Puerto Ayora, Dublin, Nantes, Tongren, Guayaquil, entre autres. Il faut que je te parle de mon aventure à Guayaquil. Ou peut-être était-ce à Montpellier. Tu verras que ce n'est pas évident. Voilà quelques pages qui figurent au tout début de ce nouveau texte de Pierre Barrault. C'est aux éditions Kidam dans leur collection Made in Europe. Et de cet auteur né en 1986 à Beaupréau dans le Maine-et-Loire, dont on nous apprend qu'il travaille aujourd'hui à Nantes après avoir été libraire à Paris. Eh bien, j'ai déjà eu l'occasion de présenter des textes qui sont parus chez plusieurs éditeurs, mais principalement, moi, ce que je vous ai présenté, c'était ceux parus chez Kidam, à savoir Catastrophe et L'aide à l'emploi, qui était une réédition, puisqu'il était paru originellement chez Louise Bottu. C'est également chez Louise Bottu que je vous avais présenté Protag, c'était en 2022. Et un autre texte que je n'ai pas eu l'occasion de lire se trouve aux éditions L'Arbre Vengeur, il date de 2016, et c'est Tartigrade. Alors quand j'ai reçu cet ouvrage des éditions Kidam de Pierre Barrault, Flouter les pigeons, je me suis demandé dans quelle aventure ou non-aventure Pierre Barrault allait encore nous embarquer. Et je ne fus pas déçu, mais vraiment le titre m'intriguait. Dans quelle mesure allait-on bien pouvoir flouter les pigeons? Alors on va suivre ici, on va dire, trois protagonistes. Artalbure, qui est une sorte d'anagramme de Barrault, j'imagine. Bolusion, dont vous avez entendu le nom, et qui aura des occupations diverses dans l'ouvrage. Ce sont les deux personnages principaux. Et puis, il y a finalement toute la foule qui va croiser leur chemin, enfin, un ensemble de personnages qui auront plus ou moins d'importance, qui ne sont pas d'ailleurs nécessairement toujours des humains, et les pigeons sont un des protagonistes essentiels de cet ouvrage. Alors, Flouter les pigeons, on comprend petit à petit, en entrant dans l'ouvrage, avec ce jeu incessant chez Pierre Barrault de passer du coq à l'âne, de nous déstabiliser constamment, de nous entraîner dans des péripéties que son imagination ne cesse de brouiller pour mieux les débrouiller ensuite et trouver ensuite également d'autres chemins de traverse. Bref, vous l'avez compris, c'est un vrai labyrinthe de la logique et de la pensée dans lequel on pénètre, mais avec Flouter les pigeons, on commence à voir se dessiner progressivement la possibilité que nous ayons tout simplement connu une chute à l'intérieur de Google Street View. C'est en tout cas ainsi que l'amène l'argumentaire de presse, et j'avoue que l'idée vient assez rapidement en tête avec le sentiment que les images qui nous sont proposées sont effectivement issues de ce Google Street View et nous permettent donc de vivre ou d'observer le monde sur toute la planète sans sortir de notre chez-soi, en cliquant tout simplement sur l'écran, et surtout de découvrir différentes strates de temps, puisque Google Street View, si je ne me trompe pas, empile plusieurs données qui ont été collectées à des moments différents, qui permettent de voir l'évolution aussi des lieux qui nous sont présentés. Et bien évidemment, on y voit et on y croise un grand nombre d'individus qui ont été saisis par les caméras de Google Street View et dont le visage a été flouté, dont l'identité a été en quelque sorte masquée pour préserver évidemment celle-ci. Eh bien, les pigeons n'échappent pas à la
règle très étrangement. Enfin, la possibilité que les pigeons soient reconnus ou identifiés a amené Google Street View à les flouter pour ne pas être reconnus à l'écran. Alors ça donne un texte qui s'amuse déjà constamment de ces sauts temporels que pourrait constituer une navigation à vue et un peu farfelue à l'intérieur de l'ensemble des différents lieux qui nous sont proposés. Ce qui explique aussi la capacité qu'ont les espaces différents évoqués par Pierre Barraud de se superposer les uns les autres et qu'on puisse, en un claquement et en un clic, évidemment basculer d'un continent à un autre et d'une ville à une autre avec le sentiment n'ayant pas bougé finalement, d'être à la fois dans l'un et dans l'autre. Et puis aussi, avec le jeu incessant de Pierre Barraud, qui était déjà présent dans ses précédents ouvrages, de nous faire chavirer véritablement dans l'ordonnancement des différents événements qui nous sont proposés dans la lecture, puisque la logique est constamment battue en brèche. La réalité qui nous est proposée dans Flouter les pigeons est une réalité qui était déformée. Alors déformé par qui? C'est la bonne question. Est-ce un choix volontaire et conscient de l'auteur? Est-ce tout simplement le plaisir de nous entraîner dans une forme de rêverie? Une rêverie qui est évidemment débarrassée de toute forme de cohérence logique? Ou bien est-ce tout simplement la possibilité qui nous serait enfin offerte de rentrer dans l'intérieur d'une intelligence artificielle qui aurait été peut-être shootée ou en tout cas qui ne serait plus dans son état normal et qui, par l'agencement des différents éléments que nous lui aurions fournis en l'alimentant, nous entraînerait dans des directions multiples et variées. Vous avez vu que je ne vous ai à aucun moment découvert l'intégralité, bien évidemment, de ces aventures ou non-aventures d'Artalbur et de Bolusion. En tout cas, il ne cesse, moi, de m'étonner et de m'enthousiasmer, d'autant que sous la plume de Pierre Barraud, ce sont non seulement les mots qui s'entrechoquent et viennent se percuter pour mieux nous déstabiliser et nous entraîner dans cette rêverie, mais c'est également le dessin qui s'invite dans les pages et qui accompagne la lecture. Vous aussi, observez plus attentivement les pigeons désormais lorsque vous vous promènerez et observez leurs regards. Assurez-vous que vous ne les avez pas déjà aperçu sur Google Street View. Flouter les pigeons, un texte de Pierre Barraud, est disponible depuis la fin du mois de mai aux éditions Kidam dans la collection Made in Europe.
Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest planet of all. Today you say one day, day after day you say one day, but you're in the wrong place and you've got the wrong face, and humans are not really very humane, and Earth is the loneliest planet of all. Of all. Live with a loneliness that no one else knows. Time after time you say next time, next time. Time after time you say next time, next time. But you fail as a
Vous êtes toujours à l'écoute des programmes de Radio Campus Lille sur le 106,6 de la bande FM en DAB+ et sur campuslille.com. Et l'on vient d'écouter Morrissey interpréter Earth is the Loneliest Planet. Baxt ne regrettait rien. Son destin était certes singulier, mais il n'en avait pas d'autre. Alors il entra dans la station. Il arpenta les couloirs de cette demeure qu'il connaissait déjà, pour l'avoir maintes fois visité sur son simulateur là-bas sur Terre. La grande différence, c'est qu'il s'agissait maintenant de son domicile, et cela le changeait de son appartement. Sur Terre, son appartement, aussi exigu fut-il, était une sorte de refuge, avec une frontière nette et définitive entre le dehors et le dedans. Franchir la porte de son appartement, c'était comme traverser une limite entre deux mondes. Ici, cette frontière était abolie. Baxt ne devait plus se cacher, se réfugier. La frontière entre les deux mondes n'existait plus que dans le temps, entre l'avant et l'après. Sa vie d'avant, et même au-delà de sa propre vie, toutes les vies, ce monde entier qu'était la vie sur Terre, tout cela n'existait plus que comme souvenir. La Terre n'était plus qu'un fantôme. Son souvenir le plus récent d'un contact terrestre, celui du pilote s'éloignant, se mêlait sans distinction à des souvenirs plus anciens. Et cela dans une sorte de reflux incessant et spontané, où toutes les images, qu'elles fussent anciennes ou récentes, s'actualisaient de la même manière, parce qu'elles avaient toutes le droit, n'étant jamais que des souvenirs, de faire irruption dans le présent. Baxt recevait bien, chaque jour, des messages envoyés par Amor Mina A, mais il s'agissait d'échanges codés, de procédures et de protocoles, lorsque ce n'était pas tout simplement des informations standardisées. C'est ainsi que, de temps à autre, Baxt écoutait Zephyria Central. Cela redonnait d'une certaine manière vie à la Terre, mais cela réveillait aussi un vieux divorce. Alors Baxt, à qui la voix humaine manquait, se tournait vers d'autres moyens de l'entendre. Il lisait, ce qui lui faisait un bien fou. De cette manière, non seulement il avait l'impression d'entendre la voix de ses auteurs préférés, lui parler secrètement, mais encore il permettait à une réalité terrestre de surgir dans sa vie, autrement que comme un souvenir. Encore heureux, pensait-il, qu'il ait songé à apporter des bouquins, car il n'y en avait aucun dans la station. Les concepteurs avaient pensé à tout, sauf à cela. Mais les bouquins ne dureraient qu'un temps. Un jour viendrait où il les aurait tous lus. Baxt se demandait ce qu'il ferait alors. Voilà le chapitre 3 de cet ouvrage de Frédéric Roussel intitulé Amor Mina B, paru aux éditions Hélice et Las dans leur collection Mycélium Mi-Raisin. Enfin, je découvre cet auteur qui a à son actif une publication antérieure chez le même éditeur Hélice et Las. C'était en 2021, un texte intitulé Grand Nord, qui mêlait déjà le texte
et l'image. Malheureusement, pour vous, radiophoniquement, il m'est difficile de vous restituer les images qui accompagnaient la lecture que je viens de vous faire. Mais c'est aussi lié, évidemment, au parcours personnel de cet auteur, Frédéric Roussel, dont on apprend qu'il est issu de l'ESA Saint-Luc à Bruxelles, où il a étudié les beaux-arts. Il a d'abord travaillé dans la publicité, où il s'est familiarisé avec la typographie et le design graphique. Et depuis, il est devenu enseignant dans les arts appliqués d'abord, à l'ECA Saint-Luc, ensuite. Et depuis 2017, il conduit des workshops de modèles vivants à la Faculté des Arts et du Design de l'Université de Laponie à Rovaniemi, en Finlande. Je demande à voir à quoi cela peut bien ressembler. En tout cas, c'est une très belle découverte que cette Amor Minae B, donc cette planète sur laquelle vient d'arriver Léo Bakst, ce scientifique dont vous avez entendu l'histoire. Dans ce chapitre 3, il est donc venu de la Terre, il a fait un petit détour par Amor Minae A, qui est une sorte de planète jumelle sur laquelle se trouvent rassemblées les activités humaines. Mais lui, sur Amor Minae B, il est absolument et complètement isolé. Il est le seul occupant d'une station qui s'appelle la station Princesse Inès, et il est chargé d'effectuer un grand nombre d'observations scientifiques, de recherches, et sa spécialité porte notamment sur les traces fossilisées de vie dans les roches anciennes. On va donc assister à la manière dont progressivement ce personnage va occuper l'espace, commencer à sortir de cette station, s'aventurer de plus en plus loin pour faire des prélèvements, et aussi pour échapper en quelque sorte à cette nostalgie qui vient parfois s'abattre sur lui, une nostalgie liée évidemment à la distance qui s'est instaurée entre lui et la Terre, mais aussi peut-être à une forme de bizarrerie, de torpeur qui s'empare de lui et dont il a du mal à comprendre d'où elle vient, et qui l'interpelle aussi sur non seulement les effets bien évidemment de la solitude, mais aussi tout simplement sur ce que c'est que cette nouvelle planète, cette nouvelle atmosphère qu'il lui est demandé d'apprivoiser et avec laquelle il lui faut désormais trouver une place, dans laquelle il lui faut désormais trouver une place afin de se sentir mieux. Ses sorties se multiplient, elles l'emmènent de plus en plus loin, il se fixe même des sortes de challenges pour pousser toujours plus loin ses expéditions, puisqu'il a besoin d'oxygène, et à un moment notamment, il va découvrir, parce qu'il l'observe dans l'horizon lointain, un volcan qui l'interpelle, une montagne lointaine, et c'est en parcourant les parois de ce volcan, et surtout en y découvrant une grotte dans laquelle il s'introduit et dont il va décider de faire véritablement l'arpentage, que véritablement le texte commence à basculer, puisque va se conclure à l'intérieur de cette grotte une découverte essentielle, non seulement pour la vie en général et les recherches de Léo Bakst, mais de manière plus intime et beaucoup plus personnelle pour lui en tant qu'individu, et surtout pour lui en tant qu'individu isolé, tête de proue d'une recherche on va dire presque scientifique, mais de science-fiction, projetée vers un espace extrêmement lointain, avec l'interrogation fondamental, très intime et personnel qu'il se pose. Faut-il, oui ou non, faire part de cette découverte? Faut-il l'annoncer à Amor Minae A, avec le risque, bien évidemment, non seulement des conséquences que cela entraînerait, alors d'un point de vue très personnel, ce serait une forme de gloire scientifique pour lui, mais avec aussi la perspective de voir arriver de manière extrêmement rapide et intensive un grand nombre d'individus qui viendraient bousculer ou bouleverser cette solitude à laquelle il s'est peu à peu habitué. Alors cette question de la solitude et de l'isolement, elle est finalement assez inhérente, j'ai l'impression, à l'écriture et au travail de Frédéric Roussel, puisque dans le texte de 2021, Grand Nord, on était déjà dans une expédition lointaine, on était certes sur Terre, mais avec, je l'imagine, ne l'ayant pas lu, mais avec le sentiment que les deux textes semblent se répondre, avec cette interrogation sur justement ces espaces lointains où l'être humain est de moins en moins présent, et où il faut affronter sa propre solitude, ses propres peurs, ses propres fantasmes, et voir comment on arrive, oui ou non, à les surmonter, à s'en accommoder et à continuer de vivre. Alors ce qui est vraiment passionnant aussi, je trouve, dans ce texte, et que j'aurais
évidemment du mal à vous restituer à ce micro, c'est l'enchevêtrement permanent du texte et de l'image, sachant que pour Frédéric Roussel, visiblement, les deux n'ont pas vocation à prendre pas sur l'autre, bien au contraire, ils ne sont pas là pour s'annuler non plus, ils ne sont pas là pour écraser l'un ou l'autre, ils ne sont pas là non plus pour se mixer l'un dans l'autre comme pourrait l'être une bande dessinée, mais bien tout simplement de travailler sur un espace visuel. En tout cas, c'est ainsi que moi je l'ai conçu, puisque le texte est lui-même disposé de manière assez particulière sous forme d'un bandeau central qui pourrait faire penser à un texte poétique, puisque les lignes sont extrêmement courtes et que la phrase est constamment hachée par des retours à la ligne. Mais à l'intérieur même de ce texte, l'illustrant et lui répondant en même temps, et peut-être aussi l'entraînant, ne sachant guère ce que Frédéric Roussel a créé en premier, est-ce le texte qui précède l'image ou l'inverse, toujours est-il qu'on a cette lecture qui se met en place et qui nous amène à constamment basculer dans le visuel, puis dans l'intellectuel avec la lecture des lettres elles-mêmes, pour petit à petit construire cet espace dans lequel évolue le personnage de Léo Bakst sur Amor Mina B, avec un jeu aussi sur la taille des vignettes. Elles sont toutes en noir et blanc avec du grisé qui l'accompagne également pour un grand nombre d'effets visuels. Et parfois, l'illustration prend toute la place sur la page. À d'autres moments, elle est beaucoup plus petite et ressemble effectivement à une vignette. On pourrait avoir aussi un sentiment presque cinématographique de ce texte. Et je vous invite à vous y plonger, parce que c'est une très belle réflexion justement sur la solitude et le sentiment d'isolement qu'on peut éprouver, et sur aussi cette recherche presque incurable, je dirais, qui semble habiter le personnage de Léo Bakst, cette recherche de la vie, de traces de la vie, de la possibilité d'une existence autre que la sienne. Vous découvrirez en lisant Amor Mina B si oui ou non cette quête a été positive. Frédéric Roussel, Amor Mina B, un texte des images disponible aux éditions Elis Hélas dans leur collection Mycélium Miraisin.
Stop. We'll be right back.
Vous êtes toujours à l'écoute des programmes de Radio Campus Lille sur le 106,6 de la bande FM en DAB+ et sur campuslille.com. Et l'on vient d'écouter Where is my mind, interprété par les Pixies. 66. Une pièce carrée, obscure. Un mobilier charmant qui a charmé jusqu'à la poussière. Une fenêtre fermée sur la vallée depuis 10 ans. Un paysage impressionniste peint d'une impression passée dans un cadre doré écaillé, un portrait barbu, comme un hérisson, regard pointu sous un front couru de fins serpents. Un fauteuil devenu gouffre par lassitude de ses ressorts, une moquette et ses mares de café asséchées. Le groom de la porte et son bras comme une branche morte de rouille. Des abysses. Tu as fermé. Tu vas jeter la clé bien loin, bien vite, sans attendre d'y passer. Tu n'es pas pressé, s'entend. C'est juste que si jamais la mort arrive, on ne sait jamais, tu ne veux pas que tes enfants prennent tout cela comme un précieux héritage à éclaircir. Un bivouac sur lequel s'engager toujours du même côté, puis à sillonner sans retour. Berné par le mystère d'un fond de poche de pantalon, le cliquetis d'une vieille clé contre quelques pièces de monnaie. Seule l'effraction, répètes-tu à l'envi, fera renaître ici autre chose qu'une impasse. 67. D'où te vient cette obsession d'ouvrir les portes sans jamais les fermer? Tu accumules les portes ouvertes comme d'autres accumulent l'argent. C'est de la thésaurisation. Oh, mais je sais, je sais. Je t'ai même déjà entendu le dire. Tu veux perpétuellement agrandir le monde, et sans te l'approprier, bien sûr, et sans penser à mal. Tu es ouvert, je sais. Et tu vas me dire encore que tu défends le lien, que le monde t'innerve, qu'il y a nécessité de ne rien rompre, de ne rien fermer, jamais. Moi, figure-toi que j'essaie de te parler sans lassitude, de tenir ton fil, de le sentir exactement sur la pulpe de ton doigt, là où tu le tiens. Tu me parles d'écartèlement heureux, de buste droit et digne, de capacité à tout tenir à bout de ventouse. Oh, je te connais par cœur, mon garçon. Et moi, je te renvoie à ton cercueil où tu t'allonges, sans en avoir conscience, de plus en plus gourd, ligoté avec des liens souvent passés ou rêvés, plutôt que de te saouler la viande de vie libre. Tu argumenteras encore l'absence de limites, les entrecroisements multiples, le refus de fin, et moi je te rappellerai encore la tienne, inéluctable de fin. Là, tu marqueras une pause bienvenue, tu admettras presque, mais je sens, je sais que tu ressurgiras de nouveau, tu te justifieras, tu asséneras que ces portes ouvertes, cette absence de limite, c'est ta façon de te saouler, ton précaré invisible d'herbe folle, où tu reconstitues un monde. Parce que je sais là aussi ce que tu défends. Je te connais par cœur, je te dis. Tu défends que dans une certaine limite, il n'y a pas de limite, et que dans une certaine mesure, il n'y a pas de mesure. C'est ton viatique pour te rechampir l'existence. Tout est en fin de compte vertigineux, avec ou sans limite. Mais il y a juste, tu vois, cette capacité que tu as, à force de portes ouvertes, d'accepter les courants d'air et les portes qui claquent. Avec ton pote, tu as au moins appris à fermer ta bouche. Maintenant que tu as plongé en profondeur, tu passes invisible d'une case à l'autre, tu songes. Tu songes qu'il y a beaucoup de façons d'entrer. Par exemple, l'odeur est une façon d'entrer, alors que c'est elle qui entre en nous. Les histoires, c'est pareil, et le radar ne les capte pas plus que l'oiseau. Voilà un extrait de cet ouvrage intitulé « Tentative de lutte contre l'infini quadrillage du monde », un texte de Thomas Pourchaire disponible aux éditions Abstraction dans leur collection Hors cadre. Thomas Pourchaire, on nous l'apprend dans l'ouvrage à la toute fin, vit à Lyon, il aime la marche et grimpe autant qu'il peut. Il est très porté sur les textes courts et évolue vers la composition d'œuvres fragmentaires, celle-ci ne dérogeant pas à la règle. Il a déjà publié « Ève et l'ange ou la gravité négociable », on voit aussi qu'il aime les titres longs, et « Du chaos et de la bonne digestion des choses ». Les éditions Abstraction donc publient ce troisième texte, « Tentative de lutte contre l'infini, quadrillage
du monde, issu initialement d'une obsession photographique. Même s'il n'y a pas de photos dans le texte, on a ici cette idée que tout pourrait correspondre effectivement à des instantanés pris de notre réalité ou du monde qui nous environne. Alors Thomas Pourchaire, nous apprend-on également à encore de nombreux projets en cours, entre autres la finalisation d'un roman et la bonne marche d'une maison d'édition associative originale créée avec trois amis qui s'appelle les éditions du Facteur Gallo. Alors, comment parler de tentative de lutte contre l'infini quadrillage du monde? C'est un texte effectivement fragmentaire, décousu. Il est constitué de 82 textes, puisqu'ils sont numérotés. Je vous ai lu les numéros 66 et 67. Ces 82 textes sont eux-mêmes séparés de manière irrégulière par des encadrés qui ressemblent à des écrans d'ordinateur, mais avec des écrans d'ordinateur assez anciens, presque antédiluviens, avec cette graphie très particulière qu'on leur connaissait, sur des écrans monochromes où on voyait apparaître à la fois les lettres, mais également ce petit carré qui correspond au curseur clignotant. Il est souvent qualifié de radar, cet élément, radar qui donc chercherait non seulement à saisir le monde, c'est le but même d'un radar, mais le radar le fait généralement avec l'obsession bien évidemment d'aboutir à une amende et donc de cadrer en quelque sorte les comportements qui pourraient passer sous ces radars justement. Tentative de lutte contre l'infini quadrillage du monde est surtout et essentiellement, à mes yeux, une tentative effectivement de saisir le monde dans sa multiplicité et dans sa diversité avec une obsession essentielle. On dit parfois du livre qu'il est une fenêtre ouverte sur le monde. Chez Thomas Pourchaire, le livre, c'est un ensemble de portes, un ensemble de portes qui s'ouvrent ou qui ne s'ouvrent pas, qui se ferment avec plus ou moins de rapidité, qui nous donne une capacité ou non d'entrer dans un espace qui nous serait offert et qui, par leur caractère presque impromptu, qu'on ne peut jamais véritablement identifier, des portes qui ont des comportements très inattendus, ne cessent de nous surprendre. Et c'est justement par ce jeu constant de portes s'ouvrant et se fermant, qui correspondent évidemment aux multiples pages que nous tournons en avançant dans le livre, que nous constatons que le quadrillage officiel du monde tel qu'il peut se constituer, tel qu'il s'organise, tel qu'il ne cesse d'ailleurs de s'intensifier avec cette surveillance permanente des écrans que nous connaissons, la manière dont les normes ne cessent de nous étouffer, l'objectif finalement d'être en mesure d'appréhender l'intégralité du monde dans un minimum d'espace, le livre, lui, vient fracturer cet objectif, cette obsession, ne cesse, par l'abîme des mots, d'ouvrir sous nos pas des choses trappes. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans la déambulation parfois troublante et un peu complexe du texte de Thomas Pourchaire, c'est que justement, on ne sait jamais véritablement ce que la porte qui s'ouvre devant nous va nous révéler, dans quelle mesure elle va constituer une fracture justement par rapport à ce qui précède. Alors on n'est pas tout à fait dans ce que Pierre Barraud nous mettait en scène dans Flouter les pigeons que j'ai présenté en début d'émission, où c'est la logique qui est constamment perturbée, mais où on sent quand même une espèce de fil narratif qui se dessine sous sa plume. Ici, avec Thomas Pourchaire, j'ai beaucoup plus l'impression effectivement d'une succession de photographies qui seraient projetées ou d'images ou de portes s'ouvrant. La porte est un des motifs récurrents du texte, mais sans qu'on ait besoin, ni même l'envie d'ailleurs, de chercher à créer une cohérence, si ce n'est peut-être entre les différents écrans qui nous sont proposés, mais c'est surtout la manière dont ce quadrillage est constamment mis en brèche, tout en jouant justement du quadrillage lui-même et par l'utilisation de la page et de la numérotation, du texte plus ou moins long qui s'offre à nous, le sentiment qu'on pourrait assister sous la plume de Thomas Pourchaire à une sorte de catalogage du monde. Et d'ailleurs, ce n'est pas anodin qu'à la toute fin du livre, on ait l'intervention d'un dictionnaire qui vient nous parler, qui est lui aussi une sorte de recensement enfin, du monde sous la forme des mots qui le composent, avec aussi l'objectif finalement de rassembler en un espace clos et restreint l'ensemble de la compréhension qu'on pourrait avoir de notre langage, mais avec aussi, et c'est là la force justement de la littérature, et c'est aussi la force du langage, sous la plume de Thomas Pourchaire, le sentiment que le mot ouvre constamment des perspectives et joue de nos attentes. C'est un texte qui est déroutant, mais qui, par la couverture même, annonce son projet. Vous savez que vous allez entrer dans un espace où l'observation va être constamment mise à mal, où les perspectives sont truquées, faussées, transformées, dénaturées pour créer un monde nouveau et vous inciter toujours plus avant à franchir les autres portes qui s'ouvrent à vous. Tentative de lutte contre l'infini quadrillage du monde, un texte de Thomas Pourchaire est donc disponible aux éditions Abstraction dans leur collection Hors Cadre.
No matter which way you go, no matter which way you stay, you're out of my mind, out of my mind, out of my mind, out of my mind. I was walking with a ghost.
Vous êtes toujours à l'écoute des programmes de Radio Campus Lille sur le 106,6 de la bande FM en DAB+ et sur campuslille.com. Et l'on vient d'écouter Walking with a Ghost, interprété par les White Stripes. Je ne puis actuellement dire à quel mobile j'obéissais, ni quel but je poursuivais. Mais je m'avançais tout droit le long du corridor, tenant mon bougeoir élevé jusqu'à ce que j'arrivasse en vue de la haute fenêtre qui dominait le vaste tournant de l'escalier. Alors, tout d'un coup, je me rendis compte de trois choses. Pratiquement parlant, ma perception en fut simultanée. Cependant, ces éclairs se succédèrent. À la suite d'un brusque mouvement, ma bougie s'était éteinte et par la fenêtre dépourvue de rideaux, je m'aperçus que la nuit finissait et que le jour naissant la rendait inutile. Sans elle, un moment après, je savais qu'il y avait une forme humaine dans l'escalier. Je parle de succession d'idées, mais il ne me fallut pas un grand nombre de secondes pour me remettre en état d'affronter une troisième rencontre avec Quint. L'apparition avait atteint le palier du milieu de l'étage. Elle était par conséquent à l'endroit le plus proche de la fenêtre, quand, à ma vue, elle s'arrêta net. C'était bien Quint. Il me dévisagea, exactement comme il m'avait dévisagé du haut de la tour et à travers les vitres du rez-de-chaussée. Il me reconnut, de même que je l'avais reconnu. Et ainsi nous demeurâmes en face, l'un de l'autre, dans l'aube froide et grise, une lueur tombant de la haute fenêtre et une autre qui venait du parquet de chêne luisant, nous fixant l'un l'autre avec la même intensité. À ce moment, il était au sens le plus absolu, une vivante, une détestable, une dangereuse présence. Mais ce n'était pas là la merveille des merveilles. Ce rang éminent, je le réserve à une toute autre constatation, que la peur indiscutablement m'avait quitté et qu'aucune puissance en moi ne se refusait à le rencontrer et à l'affronter. Voilà un extrait du texte très célèbre de Henry James, Le Tour d'écrou, ici traduit de l'anglais par Jean-Maurice Le Corbeiller, et qui figure dans cette anthologie intitulée Le goût des fantômes, disponible aux éditions Mercure de France dans la collection Le Petit Mercure, cette anthologie ayant été organisée et présentée par Françoise Siri. Elle nous permet donc, à l'instar de tous les autres volumes de cette collection, de plonger dans un grand nombre d'extraits d'œuvres ici en lien avec le fantôme. Et l'une des questions qui se pose et qui est soulevée d'entrée de jeu par Françoise Siri, c'est non seulement que les fantômes, sous une forme ou une autre, sont incroyablement présents dans la littérature, c'est déjà une chose assez évidente, la littérature n'étant-elle pas finalement l'art des fantômes lui-même, aussi bien des auteurs qui, après leur disparition, continuent d'exister par leurs ouvrages que par leur capacité à faire naître dans nos esprits les fantômes des personnages qu'ils déploient dans leurs œuvres. Mais c'est aussi une interrogation qui porte de manière plus générale sur ce qu'est exactement un fantôme. Je cite à nouveau une partie de l'introduction de Françoise Siri. On en revient toujours à la même question. Il n'est pas donné à tous de le voir, le fantôme. Qu'est-ce qu'il est exactement? C'est justement l'une des interrogations essentielles. Et c'est avec des choix qu'on pourrait lui contester que Françoise Siri décide de rassembler donc dans son livre un grand nombre de fantômes tout en ayant écarté un grand nombre d'autres figures qu'on aurait pu aussi imaginer comme étant des êtres fantomatiques, mais qu'elle écarte pour tout simplement la simplicité du recueil. Ça donne un texte très divers et varié de toutes ces différentes apparitions qui nous sont proposées et qui est structuré en plusieurs parties, en plusieurs chapitres, pourrait-on dire. Les premières s'intitulent « Frayeurs petites et grandes ». C'est dans celle-ci que figure l'apparition du texte d'Henry James, donc dans « Le tour d'écrou ». On y croise des textes de Toni Morrison, par exemple, de Pushkin, de Maupassant, avec la figure réelle et frappante du fantôme qui vient effrayer le monde des vivants. Dans une deuxième partie, on croisera des auteurs, des écrivains qui montrent des fantômes désormais alliés des vivants, avec des textes de Guillaume Apollinaire, notamment de Gabriel Garcia Marquez ou de Hans Christian Andersen. Dans une troisième partie, on croisera avec Revenance des figures fantomatiques, et là c'est plutôt la poésie qui est à l'honneur, avec Alfred de Musset par exemple, ou Joachim du Bellay. Mais c'est aussi dans la dernière partie que l'on va voir que les fantômes peuvent prêter à sourire, avec Sourire parmi les fantômes, et là on croise des auteurs comme Lewis Carroll, Alphonse Allais, Jean Tardieu, Oscar Wilde avec le fantôme de Canterville, et on finit en musique et en beauté avec Charles Trenet, le fantôme de Narbonne. Alors c'est un petit recueil qui, comme j'aime beaucoup dans cette collection, vous donne envie d'aller voir ou de découvrir des auteurs que vous ne connaissez pas pour mieux saisir les enjeux de cette figure fantomatique. Et ce que j'ai par contre également beaucoup apprécié dans l'introduction de Françoise Siri, lorsqu'elle déploie toutes les nuances évidemment fantomatiques existantes, et quand elle s'interroge sur la nature même de l'être fantomatique, elle finit ainsi. Ceux qui explorent la littérature à la recherche des démons pratiquent ce qu'on appelle la démonologie, terme revendiqué par exemple par Timothy Chesters, qui forme très sérieusement les étudiants démonologues de l'université de Cambridge. Ceux qui partent à la recherche des fantômes pour mieux les recenser, les cerner, les étudier, exercent une science appelée pneumatologie, science de l'âme et des êtres spirituels. Ce substantif féminin figure en 1751 dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Ainsi, par exemple, Daniel Sansu, professeur de littérature française moderne à l'université de Neuchâtel, intitule son livre consacré à ce sujet « Fantômes, esprits et autres morts-vivants, essai de pneumatologie littéraire ». C'est un texte disponible aux éditions José Corti depuis 2011. Et François Siri finit ainsi sa très belle introduction. Ce recueil est donc, rigoureusement parlant, un ouvrage de pneumatologie. N'hésitez donc pas, vous aussi, à vous plonger dans les fantômes de la littérature et tout simplement dans la littérature elle-même. Petit recueil disponible donc aux éditions Mercure de France dans leur collection Le Petit Mercure, Le goût des fantômes, une anthologie rassemblée par Françoise Siri. Je reviens sur les arrache-cœurs, sur les titres de l'arrache-cœur 863. J'ai présenté avant ce recueil, Les goûts des fantômes, la tentative de lutte contre l'infini quadrillage du monde, un texte de Thomas Pourchaire aux éditions Abstraction dans leur collection Hors cadre. J'avais ensuite, présenté de Frédéric Roussel un texte mêlant images et littérature, Amormina B. C'est aux éditions Hélice, hélas, dans leur collection Mycélium, mi-raisin. Et enfin, j'avais ouvert l'émission avec « Flouter les pigeons », un texte de Pierre Barreau, c'est aux éditions Kidam, dans leur collection « Made in Europe ». Tous ces titres, vous pouvez donc les retrouver sur notre site internet palud.fr à partir de cet après-midi, et où vous pouvez écouter les archives sonores de l'émission. Quant à moi, je vous laisse en compagnie des programmes de Radio Campus Lille sur le 106,6 de la bande FM en DAB+, et sur campuslille.com, juste après Palud. C'est Écho de Madagascar, présenté par Drouot, et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.